Notre rendez-vous mensuel avec l'AMPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir M. Dominique Keller, président du comité régional ex-Languedoc-Roussillon-AMPA. Bonjour Dominique Keller.
Bonjour.
Alors, Monsieur le Président, donc, vous êtes à la manette de cette organisation de l'AMPA pour le Languedoc-Roussillon.
Oui, je suis le président régional de l'AMPA à Languedoc-Roussillon. Bien sûr que nous avons entamé une démarche, en tout cas pour inscrire cette organisation dans le cadre de la nouvelle région Occitanie.
Donc ce n'est pas encore tout à fait au point, cela.
C'est au point.
C'est compliqué.
C'est au point pour le fonctionnement des établissements, mais ce n'est pas totalement au point pour la vie associative. Vous savez, l'Occitanie est une région très, très vaste. Et bon, la disponibilité des membres actifs, des bénévoles, est quand même une disponibilité relative. Bon, ce qui veut dire que ça demande quand même du temps pour s'organiser, d'autant plus que les temps de déplacement sont relativement longs. Voilà. Et puis, le niveau d'organisation n'est pas tout à fait le même en Midi-Pyrénées qu'en Languedoc-Roussillon.
C'est ça, il va y avoir une adaptation commune.
Voilà.
À faire.
Voilà,
alors,
oui.
Nous reviendrons probablement sur ces questions de mission de l'AMPA, mais j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur vous, Dominique Keller. Comment est-ce que vous êtes devenu président de cette organisation de prévention et d'addictologie?
Alors, d'abord une...
En addictologie et alcoolologie.
D'abord une précision, c'est que l'AMPA est une association nationale unitaire. Ça veut dire que toutes les décisions de la vie associative sont prises à Paris. C'est une association qui, dans le champ de la prévention et des soins de l'addictologie, mobilise donc 1500 salariés et à peu près 1000 membres actifs.
Donc sur le territoire métropolitain.
Voilà. Donc je suis sur l'AMPA, donc sur le territoire métropolitain, a ensuite une organisation déconcentrée. En région et dans les territoires, et les territoires sont souvent des départements. Donc je ne suis pas un président classique avec toutes les prérogatives d'un président. Je suis un président qui, au niveau de la région, est chargé de porter la politique de l'AMPA, de la développer et puis de trouver, le cas échéant, des réponses innovantes. C'est pas parce qu'on est dans une association unitaire qu'on est dans une organisation qui stérilise l'initiative. Ceci est aussi vrai pour la vie associative que pour le fonctionnement des établissements.
Vous êtes arrivé à ce poste avec votre expérience en addictologie et alcoolologie?
Je suis arrivé dans ce poste lorsque j'ai pris ma retraite. J'avais un poste donc de directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé de Languedoc-Roussillon. Et notamment, j'ai été contacté par le professeur Jean-Louis Balmès du CHU de Nîmes qui m'a proposé d'entrer à l'AMPA et puis d'y prendre quelques responsabilités. Donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi que j'assume donc cette responsabilité de président après avoir été bien sûr élu, puisque dans les associations on n'est pas nommé, en tout cas sur le volet associatif, mais on est élu en tout cas par les membres actifs, puisque chez nous les bénévoles on les appelle les membres actifs.
Alors vous évoquiez l'AMPA comme une association unitaire. Est-ce qu'il y a vraiment des disparités entre chaque région de l'AMPA?
Oui, il y a des disparités parce que dans certaines régions, l'AMPA ne mène que des actions de prévention. Et dans d'autres régions, l'AMPA mène des actions mixtes dans le champ de la prévention et dans le champ des soins. Et c'est le cas de l'Occitanie, où nous sommes implantés dans les 13 départements de la région et où nous assumons autant des missions de tant des missions de prévention que des missions de soins.
Mmh. Vous évoquiez cette question des adhésions, des adhérents et des membres actifs.
Oui.
Quel est leur rôle dans cette association ?
Ben, le rôle dans cette association, au niveau régional, on se cale un petit peu sur l'organisation sanitaire française, puisqu'on a un niveau national, un niveau régional et un niveau territorial. Et le niveau national, il est chargé de porter les politiques de l'ANPA, d'agir auprès du ministère pour contribuer à l'élaboration des politiques dans le champ de la dictologie. Et puis l'ANPA, au niveau national, je le dis, même si c'est un sujet très sensible en Languedoc-Roussillon, est chargé de veiller au respect de la loi Evin dans le champ de la publicité. Au niveau
région... en raison des vignobles.
Non, c'est... oui, ici c'est sensible en raison des vignobles. Hein. Vous savez bien que l'engagement des collectivités locales, je prendrai que celle du Conseil général de l'Hérault avec son slogan Aventure, démontre bien toute l'importance qu'a.
Cette économie finalement dans la région.
La région c'est très économique. C'est comment on arrive malgré tout, quand le vin est un enjeu économique très important, à faire passer des messages de santé, parce qu'il faut quand même faire passer des messages de santé pour que nos concitoyens puissent adopter dans leur fort intérieur, après avoir réfléchi à leur comportement, celui qui est le plus adapté malgré tout au développement de sa santé. Voilà. Au niveau régional, on est quand même beaucoup plus sur la stratégie, c'est-à-dire c'est comment on arrive à mettre en musique à la fois les orientations nationales de l'association, mais aussi de l'Agence régionale de santé, par exemple, et puis les réalités et les réalités locales. Donc on fait de la stratégie, on essaye de voir comment on peut positionner à la fois finalement les membres actifs, et notamment les membres actifs, on a fait un choix de dire que on se positionne sur la démocratie sanitaire que porte l'Agence régionale de santé, qu'au niveau des établissements où on essaye de donner un petit peu les directions dans lesquelles on souhaite en tout cas qu'ils puissent se positionner. Bon, aujourd'hui on voit bien qu'on est beaucoup plus sur des modes de prise en charge de soins qui se font pas forcément en centre, mais qui se font plus en ambulatoire, même si les centres de soins sont des prises en charge ambulatoires, mais qui se travaillent donc au plus près du territoire, au plus près du domicile des personnes, notamment avec les médecins libéraux. Je pense notamment à l'exemple des microstructures qui associe pour la prise en charge, en tout cas, des personnes qui souffrent d'addiction, à la fois le médecin généraliste, une psychologue, une assistante sociale. Et l'intérêt de l'ANPA là-dedans, c'est d'être un support pour ce psychologue et sa assistante sociale. Donc on voit bien qu'on est en train de travailler sur des alternatives, puis voir aussi comment, parce que c'est un sujet qui est présent partout, c'est comment on peut davantage associer les usagers au fonctionnement structuré. C'est pas évident. Parce que chez nous, les prises en charge sont très séquentielles. On ne vit pas dans un établissement 24 heures sur 24. Les personnes, ils viennent pour des consultations. Donc, organiser la représentation des usagers, ce n'est pas aussi facile que ça. Même si on sait que, par exemple, dans le Gard, il y a une expérience qui porte cette dimension-là et qui marche relativement bien.
On parlait de cette organisation unitaire et de la région, mais même dans la région, il y a des disparités étonnant de territoire et de pratiques.
Oui, il y a des pratiques très très différentes. Je vois notamment que si on reste sur le plan des établissements, que la réponse en Languedoc-Roussillon était plus riche qu'en Midi-Pyrénées. Hein, ça peut étonner. À travers deux exemples, par exemple, on avait des appartements de coordination thérapeutique qui permettent d'accueillir des personnes qui se retrouvent sans logement pour des affections de longue durée. Nous avons des appartements de coordination thérapeutique dans l'Hérault et en Lozère. Nous n'en avons pas dans l'ancienne Midi-Pyrénées. Et puis, on a un centre thérapeutique expérimental aussi à Montpellier, qui permet, en tout cas pareil, pour des personnes qui sont quand même beaucoup plus désocialisées, qui sont confrontées à des problèmes d'addiction, alcool, mais pas uniquement, de pouvoir entrer dans une démarche plus longue, qui leur permet d'élaborer à la fois un projet de vie personnel, mettant à distance leur addiction, et un projet de vie personnel leur permettant ensuite de retrouver un logement, un travail. C'est un parcours sur 2 ans. Et alors que les cures, généralement, ça s'arrête au bout de 3 mois et après, que fait-on? Et donc, ces deux types de réponses existent en Languedoc-Roussillon, mais n'existent pas en Midi-Pyrénées. Bon, on a aussi...
Donc, il va falloir équilibrer.
Alors ça, je ne sais pas si ça passera. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que sur les appartements de coordination thérapeutique, il y a toujours des appels d'offres qui sont faits par l'Agence régionale de santé, même pour un nombre de places limité. Je crois que cette année, c'était 20 pour la région Occitanie. Donc, vous vous rendez compte que ça reste quand même relativement modeste. Mais on voit bien que, par exemple, aujourd'hui, nous sommes expérimentaux sur les microstructures auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, appui aux médecins pour prendre en charge les problèmes d'addiction. C'est une démarche qui est à la fois menée de manière expérimentale en Midi-Pyrénées et en Languedoc et à Languedoc-Roussillon. C'est vrai que le savoir-faire que nous avons en appartement de coordination thérapeutique en Languedoc-Roussillon, c'est quelque chose qui est partagé avec Midi-Pyrénées pour répondre aux nouveaux appels d'offres.
Au-delà de ces organisations, de cette organisation à comment dire, peut-être à étaler sur les deux régions maintenant réunies, quelles sont vos ambitions, vos projets pour cette année, pour les années à venir? Quelle est l'orientation peut-être particulière que vous avez maintenant, que vous n'aviez pas jusqu'alors?
Oui, et ça c'est en lien avec le niveau notamment national. On est en train de se positionner très fortement sur le plaidoyer. C'est-à-dire qu'on est porteur d'un certain nombre de questions qui ont été notamment présentées lors de l'élection à la présidente de la République aux différents candidats, et ensuite, de manière irrégulière aux candidats à la députation, et de manière irrégulière aussi aux nouveaux députés. Donc on a un certain nombre de questions qu'on porte, notamment sur...
Donc une action plus politique finalement.
Oui, une opération donc plus politique. On souhaite aussi s'engager sur le volet les événements notamment festifs, je pense notamment ici, dans la région, ça prend des formes différentes ailleurs, mais ces éléments festifs, on les retrouve partout. Je pense notamment aux fêtes votives. C'est comment on est capable d'engager, de travailler avec l'ensemble des acteurs, mais ça prendra du temps, c'est pas toujours difficile, c'est parfois difficile à comprendre. Comment on engage les acteurs dans une démarche de promotion de la santé, c'est-à-dire qu'on se contente pas de mettre à la sortie de la fête un petit stand avec un éthylotest, mais comment, quand on prépare la fête, pareil, qu'on se préoccupe de faire venir les madanes, etc., c'est comment on intègre la dimension santé. La santé, c'est pas uniquement qu'une affaire de professionnels de santé.
C'est ça.
C'est notre affaire à tous. Et nous, en tant que ANPA, Association de Santé Publique, même si sur le sujet du vin, c'est un thème délicat, comme je le disais tout à l'heure, on souhaite vraiment apporter des informations pour que nos concitoyens puissent adapter un comportement responsable par rapport à leur santé. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il convient de ne pas boire, mais on dit que notamment consommer de l'alcool, ça présente dès le départ, un danger certain pour la santé. On sait parfois quand on commence et on ne sait pas toujours quand on finit.
Mais vous voulez vraiment associer ces organisateurs à votre démarche
Oui, enfin voilà, ce n'est pas notre démarche à nous, c'est d'essayer de... Bon, alors on sait que cette démarche-là, elle n'est pas portée que par nous. Au niveau de la région Occitanie, notamment, il y a la MILDECA, la Mission Nationale de Lutte contre les Addictions, qui est rattachée au Premier ministre, qui a lancé un appel d'offres. Et l'AMPA, avec deux autres associations, notamment Avenir Santé Jeune, et a été chargé de travailler sur la manière finalement d'organiser la réduction des risques pour ces manifestations donc festives. Donc on a une responsabilité dans ce secteur-là, et on sait que dans certains départements de la région, notamment l'Aude et le Gard, et il y a des préfectures qui sont à la pointe pour développer davantage cette démarche de prévention, mais pas uniquement que de prévention, parce que de promotion de la santé, il faut être acteur au niveau des organisateurs, acteur au niveau des participants. Il ne s'agit pas d'interdire, parce que si on interdit la fête, de toute façon elle se fera ailleurs dans des conditions plus déplorables, mais il faut voir comment on peut l'organiser au mieux pour l'intérêt de tous.
Je crois bien que vous avez donné le mot de la fin, Monsieur Keller.
Voilà.
Peut-être je vais rajouter les coordonnées de l'AMPA sur Montpellier. Ce serait peut-être utile en cette fin d'émission. Donc l'AMPA 34, c'est au 59 avenue de Fès, au bâtiment C,
c'est ça, oui.
La résidence Henri Bertin. Il y a un téléphone disponible, c'est le 04 99 77 10 77.
Tout à fait, ça concerne l'ensemble des addictions. C'est un parcours qui ne peut s'initier qu'avec la volonté de la personne. C'était un parcours avec des ruptures, des allées, des retours. C'est quitter les addictions, c'est parfois un long chemin qui rencontre les itinéraires et les hésitations de chacun.
Merci Dominique Keller, président de l'AMPA 34. Au revoir.
Au revoir.